watch it.
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pineau et Grégoire Di Fiore et la prise de son assurée ce soir par Nicolas Delmas, la réalisation Daniel Finot. Autour de moi, ce soir, Anaël Pijat, Corinne Rondeau, Stéphane Coréard, notre programme Bourdelle et l'Antique, une passion moderne, au musée Bourdelle. Carte blanche à Camille Henrot, Days and Dogs, c'est au Palais de Tokyo. Et puis Daniel Buren, exposition à la galerie Kamel Menour. Présente également, si son ordinateur veut se mettre à marcher, Aïssa Tundoy pourra surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires sur les expositions dont nous allons parler. Et puis il y aura bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour un film dont nous parlerons vendredi, le film We Blew It de Jean-Baptiste Torret qui est sorti aujourd'hui sur les écrans. Et nous ouvrons cette émission en nous rendant au musée Bourdelle pour y découvrir l'exposition Bourdelle et l'Antique, une passion moderne. Les commissaires en sont Claire Barbillon, Jérôme Godot et Amélie Simier. Parlions la semaine passée du musée Zadkine, bien plus grand, le musée Bourdelle fonctionne sur le même principe avec des expositions qui interrogent le corpus du sculpteur français né en 1861, mort en 1929, celui qui s'est formé auprès de Rodin avant de voler de ses propres ailes et puis ayant lui-même pour élève Alberto Giacometti ou Germaine Richier, entre autres. C'est dans le quartier de Montparnasse que Bourdelle avait ses ateliers. C'est là que Christian de Porzamparc a signé il y a 25 ans déjà cette extension pour en faire le musée Bourdelle, un très beau lieu de la capitale, peut-être pas assez connu, parce qu'il faut en parler, parce qu'on aime bien y aller et être un peu tranquille. Non, il faut connaître le musée Bourdelle. Pour cette nouvelle exposition, Bourdelle et l'Antique, une passion moderne, ce sont pas moins de 150 œuvres qui sont présentées, signées Bourdelle, bien sûr, d'un côté, mais aussi de l'autre, Bonnard, Brancusi, Cézanne, Matisse, Picasso, Puvis de Chavannes, quelques autres. La liste est longue. Si vous arrivez à relire vos notes, vous pouvez commencer, Corinne Rondeau.
Ah, écoutez,
parce que l'ordinateur d'Aïssa Tundoy ne marche pas. Je ne sais pas si vous arrivez à lire vos notes. Peut-être que rien ne marche aujourd'hui. Écrit, numérique, rien ne marche.
Oui, non, peu importe, on marche toujours même en boitant.
Parce que votre mémoire est vive.
Ça dépend les jours aussi. Mais non, j'étais très heureuse de cette exposition. D'abord parce que c'est vrai, c'est un musée. Et avec Zadkine, je trouve que quand même, il y a vraiment dans les musées parisiens des choses à voir et il faut pas du tout se priver d'y aller, même si on en parle un peu moins que les plus grosses institutions et plus nationales que parisiennes. Et j'étais alors Bourdelle, on le connaît, et en même temps en entrant dans cette exposition qui commence par un couloir assez simple, mais et en descend au sous-sol, donc je crois que cette exposition m'a vraiment fait découvrir Bourdelle. C'est-à-dire que, grosso modo, je n'arrive pas trop à le caler dans sa période du 19e, 20e. Et je crois que cette exposition m'a donné le mouvement et son vrai moment contemporain. Qui l'a croisé, comment il l'a croisé, mais aussi effectivement avec cette dimension qui commence avec l'exposition, qui est celle de l'archaïsme, parce qu'on est on est accueilli avec ce mot, notamment une citation de Bourdel qui dit bah voilà, quand on me traite d'archaïque, eh bien c'est le plus grand compliment qu'on me fait d'une certaine manière. On commence par une photographie qui est une la salle des moulages des antiques à l'école des Beaux-Arts en 1876. Quelque chose comme ça. Et en fait, c'est sur le même mur où se trouve un peu plus loin là, le grand hall avec les grands plâtres de Bourdel. Et donc, il y a cet écho-là entre le musée et l'exposition. Évidemment, l'exposition est un déploiement à travers, non pas l'œuvre fermée sur elle-même, mais justement à travers sa progression. Et il y a une scénographie que j'ai trouvée absolument remarquable et qui va jusqu'à à dramatiser, enfin à être dans une dramaturgie réelle entre les sculptures de Bourdel, bien sûr, mais aussi la photographie dont il se servait beaucoup. Il faisait lui-même la photographie de ses œuvres. Donc on les voit d'ailleurs masquées. Il y a que la sculpture qui apparaît sur la plaque. Et puis aussi tous les artistes qu'il a côtoyés, mais aussi évidemment, et ce premier couloir nous le donne, à savoir des dessins, puisqu'il a été un grand copiste. Quand il arrive à Paris en 1884, il va assidûment au Louvre, il fait des copies, même, il commence peut-être un peu plus tôt à Montauban, mais mais il a une précision, une exigence de la copie, mais qui est une copie vraiment, la copie de la copie, je veux dire, il n'y a pas... Et en fait, le travail au fond du couloir, on va voir entre des dessins qui datent de 1880 à 1920, on va voir quand même une période comme ça de 40 ans qui vont ouvrir, je dirais, une liberté toujours liée à l'antique. Et en même temps, c'est pas du tout les mêmes dessins, d'ailleurs, qui reprennent un petit peu le travail des encres brunes qu'on a sur les vases du 6e siècle en Grèce. Et donc, on va voir un déploiement et une théâtralité aussi qui rejoue les fresques qu'on connaît, notamment la façade des Champs-Élysées, du théâtre des Champs-Élysées. Et donc, il y a vraiment un déploiement que moi, j'ai trouvé absolument remarquable, une lumière... Voilà, on ne peut pas demander mieux. Et j'ai trouvé qu'il y avait un très très beau dialogue, parfois évidemment synchronique à certains endroits, mais qui sont tous justifiés. Et aucune exposition, parce que j'ai lu tout le catalogue, et je crois qu'aucune, enfin, sauf le texte qui traite la psychanalyse, et ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'aucune exposition ne peut être à la fois aussi tenue scientifiquement, et en même temps, qui libère une sensibilité très forte. Et je dois dire que je crois qu'après Le Fruit, qui est une sculpture de femme de Bourdel, où on va vers la partie de Pénélope, puisque les parties sont séparées par des titres qui représentent des formes de sculptures très importantes chez Bourdel. Alors la partie Pénélope, déjà à côté du Picasso, ça vous en met deux. Les deux. Et puis la partie du centaure mort, la mort du centaure, que j'ai trouvé d'un coup trop pleine. Et en fait, quand on part de l'expo, on repasse par Héraclès, parce que c'est la troisième partie, on va dire. Et quand on voit ce truc, on se dit, mais évidemment qu'il fallait sortir par Héraclès. Enfin, bon.
Bon, vous voyez que la mémoire est vive.
Oui, hein, oui, mais ça, j'en ai quatre pages, vous voyez.
Mais... mais sans lire vos notes. Alors, vous avez bien fait de parler de scénographie, puisque c'est la talentueuse Cécile de Gauss qui signe cette scénographie, ce qui est bien indiqué dans le dossier de présentation de l'exposition. Ce ne sera pas le cas, on en parlera tout à l'heure, pour le Palais de Tokyo, où la même Cécile de Gauss a fait un travail tout aussi remarquable, mais dans une forme d'anonymat. Bon, je fais déjà un petit flash forward, mais bon. Revenons au musée Bourdel et poursuivons avec Annaëlle Pigeat.
C'est vrai que cette exposition est extrêmement, m'a beaucoup touchée aussi, est extrêmement exemplaire de du travail qu'on peut faire, je pense, dans un musée monographique comme le musée Bourdel. C'est vraiment une mise en valeur extraordinaire de la collection, parce qu'en fait, l'exposition est centrée sur 8 œuvres de Bourdel, autour desquelles sont greffées, enfin sont montrées un certain nombre d'œuvres, des collections ou bien empruntées. Et d'ailleurs, il y a des prêts tout à fait remarquables. Alors évidemment...
Notamment du musée Zadkine.
Notamment du musée Zadkine, mais pas seulement.
Oui, oui.
Évidemment, quand on dirige le musée Bourdel, il est très tentant de mettre Bourdel au centre du monde, et de considérer que c'est un artiste absolument. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est, je ne sais pas si Bourdel est un artiste aussi important que le montre l'exposition, c'est-à-dire enfin qui est à tel point un tournant dans l'histoire, mais la démonstration est quand même tout à fait intéressante et en tout cas renouvelle assurément, comme vous le disiez Corinne, le regard qu'on peut avoir sur Bourdelle, parce qu'elle l'inscrit vraiment dans l'histoire, entre un avant et un après, l'avant de l'antique et l'après de la modernité. Évidemment, l'idée de l'exposition, c'est de dire que l'antique est un vecteur de la modernité pour Bourdelle. Alors, il y a un certain nombre de variations, parce que l'antique, il y a en fait beaucoup d'antiques dans cette appellation l'antique. Il y a l'antique, il y a la période archaïque, il y a un antique classique, mais on rentre aussi dans le Moyen-Âge, il y a des petits dessins que Bourdelle a fait à l'abbaye de Moissac. Il y a aussi à la fin, pour le centaure dont vous parliez, une inspiration qui est soulignée dans un des remarquables textes du catalogue de Grunewald, question qui a été redécouverte, enfin Grunewald ayant été redécouvert à ce moment-là, comme l'a souligné François-René Martin, ce qui est raconté dans ce texte sur le centaure. Donc, il y a plusieurs antiques, et puis il y a plusieurs modernes, et en fait, on voit à certains passages de l'exposition que Bourdelle travaille à la fois en même temps que d'autres artistes modernes, et peut-être qu'il a inspiré d'autres, notamment Picasso, par exemple, avec la Pénélope dont vous parliez, qui est mis en parallèle d'un tableau de Picasso de 1925, qui est une femme assise, 1920, pardon, qui est une femme assise. Donc, voilà, il y a vraiment... Alors ensuite, il y a des passages très très beaux. On rentre en fait dans la fabrique de l'œuvre, et ce qui est très bien accompagné par la scénographie. Et il y a des perspectives absolument fantastiques. Par exemple, est-ce qu'on prend un exemple? C'est le camarade Stéphane qui prend la suite. Un exemple.
Ah, il va prendre la suite juste après vous.
Apollon au combat, par exemple, il y a une succession de têtes. Alors, Bourdelle découvre, retrouve un petit bronze, une petite sculpture de 1898 qu'il avait perdue. Il en refait un moulage. À partir de là, en 1900, c'est un paysan italien qui a posé pour lui. C'est un visage, un visage assez osseux. D'ailleurs, il l'avait offert à Rodin, qui est un de ses maîtres. En 1909, il fait une tête d'Héraclès, inspirée de cette première tête. Alors, on voit les traces du moulage. On reconnaît. Bon, ensuite, il ajoute en 1909 une base, je vérifie, une sorte de socle à cette tête. Il y a ensuite en 1917 la tête pour la sculpture du général Alvéar, que l'on voit d'ailleurs dans le musée, dans le grand hall. C'est l'occasion aussi d'une promenade dans le musée, ce qui n'était pas pour me déplaire. Et ensuite, fin de la progression, on arrive à une tête de Germaine Richier, qui date de 1933, qui a été son élève et qui prend une cohérence comme ça, qui a été l'élève de Bourdelle et qui prend une cohérence. Et cette ligne est absolument magnifique et elle sert un peu de point de repère dans l'exposition, même parce qu'on la réaperçoit depuis l'espace de Pénélope et, comme le disait Corinne, en sortant, quand on repart de chez le Centaure, on revient par là. Donc voilà, il y a encore 1000 exemples à développer de progression de ce genre.
Il en reste 1000 donc pour Stéphane Coréard qui n'a pas encore parlé de cette exposition Bourdelle et l'Antique, Stéphane.
Oui, je pourrais presque ne rien dire parce que je suis d'accord avec ce qu'on dit à la fois Corinne Hondo et Anaël Pijat. C'est une exposition assez remarquable, surprenante, ouverte, qui laisse beaucoup de place aux spectateurs, je trouve, aux regardeurs, grâce notamment à la scénographie, mais évidemment aussi au choix des œuvres et au déroulé. Ce que je pourrais ajouter à ce qui a déjà été dit, c'est la réhabilitation un peu paradoxale de l'académie, d'une certaine manière. Parce que la première salle, effectivement, qui est celle de la copie, quand il va évidemment se détacher rapidement, c'est la copie des plâtres d'après l'antique, de ses collections, du Louvre, etc. Mais aussi, d'ailleurs, de sa propre collection, parce que lui-même était collectionneur de moulages et de répliques, et parfois de pièces originales d'antiquité. Et finalement, on voit que l'artiste fait son miel de tout, et c'est ce qui se passe avec Bourdelle. Et notamment, d'ailleurs, ce qu'on a esquissé, c'est-à-dire à la fois la dimension de l'antiquité dans cette grâce, dans ce geste de sculpture, à la recherche du sublime, de la beauté, etc. Mais aussi, effectivement, du primitivisme. Il y a les deux sens de l'antiquité dans l'exposition. Et je trouve que c'est très bien vu, notamment à travers le dialogue très surprenant, pour le coup, entre Bourdelle et Picasso, auquel on s'attend pas, parce qu'il y a effectivement les deux moments qui sont finalement assez rapprochés dans le temps, d'une dizaine d'années, c'est-à-dire le cubisme, qu'on pourrait là voir dans l'exposition, exposition autour de, effectivement, de la tête de Cléopâtre, de Bourdelle, qui date de 1908. Et là, il y a une remarquable vitrine où il y a Zadkine, une tête d'homme de 18. Enfin, ça commence en réalité avec donc le modèle, on va dire, qui aurait pu inspirer Bourdelle, puisque c'est ce travail un peu d'archéologie qu'on fait aussi des commissaires. C'est la tête, une tête féminine, une sculpture ibérique. D'ailleurs, ce qui n'est pas un hasard, peut-être, du 4e siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, la vitrine déroule une tête de femme de Picasso de 1906-1907, un masque de femme de Picasso de 1908, Danaïde de Brancusi 1907-1908, tête de femme de Modigliani, qui manquait dans l'exposition Étrepierre de Zadkine, pas la dernière fois, mais ça aurait été bien, qui est aussi un Modigliani, et justement une tête d'homme de Zadkine, et on finit avec la tête de la mère d'Alberto Giacometti de 1927. Et donc, c'est aussi une exposition sur le temps, et le temps long, de l'Antiquité à la modernité, et aussi ce qui est très beau, je trouve, cette petite succession temporelle avec ces petites variations et comment cette modernité s'installe. Mais à l'autre bout du spectre, si je puis dire, et c'est pas très long temps après, c'est Pénélope, c'est même simultané, 1905-1912, donc chez Bourdelle c'est simultané, ce qui est surprenant. Et là, effectivement, il y a ce face-à-face entre Pénélope et la toile Femme assise de Picasso de 1920, qui est pour Picasso le retour à l'ordre, le classicisme. Et donc finalement, on se rend compte que chez Bourdelle, c'est simultané. Il peut être simultanément, on va dire, dans les mêmes années, cubiste et classique, là où Picasso, qui est aussi un rapide, le sera finalement quand même successivement.
Donc, c'est pour ça aussi qu'on a du mal à situer Bourdelle, quand même, parce que s'il fait tout en même temps, où est-il ?
C'est vrai que
c'est ça la question.
Oui, bien sûr, et on dit d'ailleurs qu'il y a des films à thèse où il pourrait y avoir aussi une exposition à thèse.
Oui,
cette exposition est une expo à thèse, mais en même temps qui n'est pas didactique, assommante.
Elle on n'est pas obligé d'y adhérer, quoi. Il nous force pas la main, absolument.
Tout à fait. Mais ça change notre regard sur ces années charnières de la modernité en sculpture. Et effectivement, je trouve que ce que je voulais dire, ce qui est très beau, c'est la manière dont ça tricote, justement, c'est pas ça. Là, c'est aussi une exposition sur la transmission. Le temps et la transmission. Parce qu'il y a les immédiats prédécesseurs de Bourdelle, qui sont parfois ses maîtres, comme Rodin. Il y a Mayol, qui est un petit peu son rival. Il y a donc ses contemporains, ses stricto contemporains. Et puis ensuite, il y a effectivement ceux qui viennent juste après. Il y a une très belle sculpture de Matisse aussi, par exemple, qui est mise en parallèle avec Bourdelle. Et puis enfin, il y a effectivement ses élèves. Et là, effectivement, quels élèves ? Giacometti, Germaine Richier, la tête bandée comme ça, aveugle de Germaine Richier, est une splendeur.
Annelle Pijat ?
Non, ce que je me dis, c'est que cette démonstration, elle n'est pas du tout rhétorique. Et si cette inscription de Bourdelle dans l'histoire, et si on essaye de faire l'exercice avec Zadkine, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Alors, si je pouvais avoir une réserve, c'est que peut-être la dernière salle, qui est la plus grande salle du parcours, plus exactement, il y a une grande précision et une très grande retenue dans toutes les salles, les premières salles de l'exposition, c'est-à-dire qu'on progresse vraiment pas à pas. Il y a une grande économie d'œuvre, ce que j'ai trouvé très agréable aussi. C'est vraiment très étayé, enfin la démonstration est très étayée. Chaque œuvre est vraiment utile. Et puis, dans la dernière salle sur le centaure, là, j'ai trouvé que c'était aussi intéressant, mais moins clair, parce qu'en fait, il y a une sorte de grand mélange entre, d'une part, le décor qu'il a fait pour le théâtre des Champs-Élysées, et puis le centaure mourant, qui est cette grande sculpture qui est au centre de la pièce, et qui est magnifiquement d'ailleurs mis en parallèle d'une Pietà, enfin du carton pour une Pietà qu'il a fait à Notre-Dame du Raincy. Et donc là, je trouve que dans cette scène, bon, ça tient aussi évidemment à la taille des œuvres, mais je trouve que le propos est moins clair. Et puis il y a la présence de tableaux de ses camarades avec qui il a fait le théâtre des Champs-Élysées. Maurice Denis, Xavier Roussel, ok. Le Bonnard m'a semblé moins nécessaire, mais en même temps, on est toujours content de voir ces tableaux.
Quand même. Corinne Rondeau, encore un dernier mot sur cette exposition de Bourdelle à l'Antique.
Oh bah écoutez, je vais enlever la réserve d'Annelle, parce que oui, évidemment, c'est la dernière pièce, enfin, et puis c'est les dernières œuvres. Et puis en même temps, je voudrais répondre aussi à Stéphane, parce que c'est vrai, là, cette dimension de simultanéité, mais en même temps, il travaille longtemps à ces sculptures. 7 ans, 11 ans. Il y a des œuvres, pas là, je ne sais plus quelle est la sculpture, j'en ai trop lu. Elle est réservée dans l'atelier. Il ne va les montrer qu'à Gide, à Alifort. Ouais. C'est pas montré. Donc, il a un temps aussi pour montrer les choses. Donc, c'est quelqu'un qui, dans son archaïsme, qui est cette manière de faire un art des origines, il est. Et Cézanne, qui est un de ses maîtres, comme beaucoup d'autres, mais Puvis de Chavannes. Mmh. Et c'est là où la distinction avec Picasso a lieu. Ils ont le même père, c'est Cézanne, et il y en a un, c'est Puvis de Chavannes, et l'autre, c'est, c'est moi. Voilà. Et donc, à un moment donné, cet académisme dont il se sort, parce que ce qui est absolument génial, c'est que le type dit, bon, grosso modo, l'académisme, c'est un mensonge. L'idéal est un mensonge. Mmh. Et donc, le primitivisme, c'est revenir à des formes qui ne mentiraient pas. Mmh. Et donc, la question, c'est revenir tout le temps aux origines. Et en même temps, l'archaïsme, c'est l'origine, ok, mais c'est la passion et le mythe. Et cette passion et le mythe, vous le retrouvez à la fin. À la fois une dimension christique, avec ce centaure au bras ouvert, avec son ami Émile Verhaeren, qui a été le premier découvreur en fait, du Grunewald et non pas Huysmans, qui fait qu'il y a cette idée de cette tête énorme. Ce centaure qu'on trouve à la fin, il est gigantesque. Et cette tête qui tombe sur l'épaule gauche, je veux dire, c'est une... C'est un drame à soi tout seul. Et il a une dimension orphique dans la mesure où il tend le bras vers une lyre sur sa croupe. Et je veux dire, il y a quelque chose de la note qui n'en finit pas. Cette mort-là, elle est aussi liée à toute une dimension de la fin. Et c'est une acmé. Puisqu'en fait, il déclara « Mon centaure meurt comme tous les dieux parce qu'on ne croit plus en lui ». Mais c'est la question du créateur. Cette salle, c'est quand on est au bout, je veux dire, il faut tout y mettre. Et il y a une phrase d'Anatole Chiron qui est absolument merveilleuse. Il commente un poème, en fait, La mort de Centaure, qui n'est pas de celle de Maurice de Guérin, mais de Louis de Ronchaux. Il dit « Chiron rassasié de la vie, a soif de la mort, il sait qu'elle est bonne, qu'elle est nécessaire, qu'elle est divine, puisque naturelle, il aspire à rentrer dans le grand tout. » Eh bien, cette salle, c'est le grand tout, c'est la question de la création. Et quand vous ressortez par Héraclès, qui est quand même la sculpture de dingue, vous dites « Bah ouais, je veux dire, jusqu'au bout, la création, ce qui n'arrive pas à tous les artistes, qui ont le nom. »
Conclusion de Stéphane Coréard.
Oui, j'aurais du mal à me situer au même niveau, mais en tout cas, j'abonde dans le sens
chacun de sa partition, c'est un orchestre.
J'abonde dans le sens de Corinne Rondeau pour lever les doutes que Anaëlle Pigeat avait essayé de semer dans l'esprit de nos auditeurs, pour dire qu'effectivement il y a deux parties qui sont très denses. C'est celle du fruit de Puvis de Chavannes qui va effectivement de Cézanne à Matisse, et surtout effectivement celle du centaure mourant où il y a même à l'intérieur une petite partie sur Isadora Duncan qui est très intéressante. Oui, mais ça n'est pas du tout un reproche qu'on peut faire que l'exposition soit trop riche, parce que de nouveau elle est très ouverte et le spectateur peut faire son travail. Simplement, il y a deux sujets pour des petites expositions futur à Bordel.
Bordel et l'antique, une passion moderne, c'est jusqu'au 4 février à découvrir dans ce très beau musée Bordel. Le catalogue de l'exposition qu'on a cité était édité par Paris Musée. À suivre dans la dispute, Camille Henrot et Daniel Buren.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette émission consacrée ce soir aux arts plastiques avec Camille Henrot pour la 3e carte blanche donnée par le Palais de Tokyo à un artiste après Philippe Parrainot en 2013, Tino Segal en 2016. Camille Henrot, lauréat du Lion d'Argent à la 55e Biennale de Venise, c'est en 2013, s'est donc vu offrir tous les espaces du musée qu'elle a occupé avec une proposition intitulée Days and Dogs, dont la commissaire est Daria de Beauvais. Entrons dans le Palais de Tokyo à la suite d'Anaëlle Pigeat.
Oh!
Bah oui.
Alors? Je vous emmène voir Days Are Dogs.
Ça commence bien. Un E et un silence.
Ça commence par un jour.
Ça commence par un jour, mais on ne sait pas lequel. Exactement. Ça commence par Saturday. Ah. Et ça commence par un jour sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord. Savoir si c'est vraiment le début de la semaine ou pas.
Ça, c'est le côté anglo-saxon, ça.
En tout cas, moi, j'aime bien, déjà. L'exposition de Camille Henrot est une sorte de performance, d'exploit, d'exercice impossible, occupé tout le palais de Tokyo.
Avant, c'est pas tout le palais de Tokyo, déjà.
En fait, c'est pas tout à fait, mais c'est quand même très grand.
Une partie.
En tout cas, c'est une carte blanche qui est censée occuper tout l'espace. Avant elle, Philippe Parrainot et Tino Segal l'ont fait. petit préambule, je trouve que la première question que soulève cette exposition, c'est ce format de la carte blanche. Ce que ça représente que de donner à un artiste de moins de 40 ans la mission de remplir un espace aussi vaste avec une œuvre, somme toute, assez jeune encore, quoique déjà reconnue, ce qui est le cas de Camille Henrot. Alors moi, cette exposition m'a convaincue, elle est structurée autour des jours de la semaine. Il y a une sorte de stratégie narrative comme ça, un peu qui dit et qui ne dit pas. On commence par le samedi. C'est une sorte de voyage dans des états d'âme proposés par Camille Henrot. Le samedi, il y a ce film dont je voudrais parler après, qui, à mon avis, est la pièce maîtresse de l'exposition. Le lundi, c'est le jour de la mélancolie. Le mardi, il y a quelque chose de beaucoup plus belliqueux dans les espaces. Voilà, la suite de l'exposition se perd, enfin la fin de l'exposition se perd peut-être un petit peu plus dans la correspondance notamment entre la nature des pièces qui y sont montrées et la coloration du jour qui est indiquée. Puis je trouve qu'elle retombe très bien sur ses pieds à la fin avec le vendredi. Alors peut-être avant de détailler chacun de ces jours,
on n'aura peut-être pas le temps de tous les détailler.
Non,
hein,
mais
Annaëlle,
alors est-ce que je peux détailler par exemple Saturday,
votre jour préféré?
Qui est ce nouveau film? Ben, j'aime bien le samedi.
Ah non, mais avant de parler du film, faisons un tour général, d'accord. Peut-être, bon. Si vous voulez bien, Annaëlle, avec Stéphane Coréard à présent sur un premier regard sur cette carte blanche à Camille Henrot, Palais de Tokyo.
Alors, effectivement, cette exposition de 6000 m² réunit Camille Henrot et puis 6 invités, dont 5 plasticiens. C'est en fait une carte blanche qui n'est pas une vraie carte blanche, ça n'est pas non plus une introspective, c'est plutôt un menu best-of. C'est-à-dire que elle nous rejoue
XXL
XXL absolument. Donc elle nous refait un peu ses meilleurs les meilleurs moments de sa carrière, hein. Donc ça, il y a Deep Inside qu'on a vu en 2005 chez Dominique Fiat, il y a Grosse Fatigue de Vial de Venise, il y a The Pale Fox de Béton Salon, toutes ces pièces sont refaites, rejouées avec d'ailleurs pas vraiment de variations. Donc c'est vraiment un best-of, mais c'est un best-of comme dans les fast-food, c'est-à-dire que ça ne nourrit pas. Et ça ne nourrit pas. Pourquoi? Alors c'est ça qu'on va pouvoir détailler. Mais la première chose, c'est effectivement pour rester sur le principe de la carte blanche, ça nous est présenté. On dit que les galeries ont des poulains, et c'est vrai que ça nous est présenté comme l'artiste. Enfin bon, c'est vraiment le storytelling. C'est l'artiste française qui cartonne, qui réussit partout, qui est dans des gros circuits commerciaux, internationaux, etc. Et ce qui m'a amusé, ce qui m'a frappé, c'est que je trouve que ça devient le sujet de l'exposition d'une certaine manière. Notamment, j'ai vu ça à travers l'omniprésence des shows de course, des étalons. Il y a dans le film Tuesday tous les soins apportés à des shows de course. Il y a des impressions qui s'appellent Racing in America 2013 qui sont des pédigrés d'étalons. Et dans le catalogue lui-même, dans l'interview, l'entretien. Vous allez voir, on a plutôt tendance à parler anglais quand on parle de Camille Henrot. Dans l'entretien qu'elle accorde à Daria de Beauvais dans le magazine Palais, qui accompagne l'exposition, elle dit la première chose qui te frappe quand tu dis Camille Henrot, qui te frappe quand tu observes les écuries de chevaux de course, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnel qui s'occupe des chevaux que de bêtes. Ce soin est déployé en vue d'une rentabilité espérée. En même temps, les gens qui s'occupent des chevaux en sont sincèrement amoureux. Et moi, quand je dis ça, évidemment, je pense à l'art aujourd'hui, et notamment à ces gros artistes industriels, spectaculaires, spéculatifs, dont elle est un exemple. C'est-à-dire que on en espère une rentabilité, et en même temps, les gens qui font ça, je pense, en sont sincèrement amoureux. Donc, les gens qui font cette exposition, les gens qui l'accompagnent, je pense, croient sincèrement à son travail.
Alors, on va voir dans un instant, Stéphane Coréard, s'il y a quand même des choses que vous sauvez parmi les jours de cette semaine de Camille Henrot, ou certains que vous critiquez, et vous le ferez avec les arguments en béton salon que vous avez préparé. Corinne Rondeau, un regard général sur cette exposition au Palais de Tokyo.
Si j'ai bien compris Stéphane, en fait, Camille Henrot est un étalon.
Oui, vous avez bien compris, oui. Ouais. Malgré la fièvre et le mal de tête.
On va dire que le travail de Camille Henrot et ce que j'aime dans l'art, il y a un monde entre, voire un abîme. Donc j'ai eu l'impression de traverser des pièces d'un grand appartement ultra hyper contemporain, au confort tout à fait formaliste, parfaitement fait jusqu'à la découpe de la moquette, des salles, ces grands cartels écrits avec des noms particuliers, toujours un peu en surplomb de ce qu'il faut commenter de la salle ou pas de la salle ou à l'extérieur. Donc j'ai trouvé ça assez vide en termes de matière grise, de sensibilité. Et donc j'étais un petit peu anéantie par tant de mètres carrés avec... Enfin, voilà, il y a des gens avec pas grand chose, ils font quelque chose, et là il y a beaucoup de choses qui, moi, il y a pas grand chose qui est venu à moi. Et la dimension même de l'économie est très présente, puisqu'en fait, Camille Henrot, si j'ai bien compris quand même le projet, c'est de parler d'un certain nombre de dépendances. Et évidemment, alors ça serait l'idée d'une sorte d'aliénation. C'est la grande idée maîtresse, c'est l'aliénation. Moi, j'en ai un peu marre de cette idée maîtresse. J'ai un peu envie de voir des artistes qui produisent autre chose que de la vente et de la visibilité, même si on peut être très content d'avoir des artistes à l'étranger qui s'en sortent très bien, après tout. Mais j'ai aussi envie de voir qu'il y a... à travers peut-être l'aliénation, ou qui est très à la mode quand même, en termes de discours, là, j'avais l'impression qu'il y avait des formes qui donnaient corps, si tant est qu'il y en ait un, à ce discours-là. Et je dois dire que, voilà, moi je suis pas là, je peux pas, je n'y arrive pas. Je veux dire, j'y suis restée à peu près 1h30, 2h, donc je veux dire que j'ai pris le temps d'être avec... Mais tout est propre, alors en même temps il y a quelque chose qui se contredit, alors, et c'est là que je n'arrive pas à savoir si l'équilibre se tient sur un investissement, une implication de l'artiste à travers ce qu'elle serait en train de manifester au travers de la dépendance, qu'elle soit économique, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit religieuse, puisque ce sont des éléments qui appartiennent à l'exposition, ce qu'elle montre entre les films, les sculptures et d'autres dispositifs. Et donc, à ce moment-là, je me dis, mais où se trouve en fait la vraie part de geste ou d'action ? Peu importe, je prends n'importe quel mot, geste ou action. Je fais pas de distinction de catégorie, voilà, discursive. Mais et là, je me dis, mais où est-ce que ça se trouve ? Par exemple, quand on a un parcours de, je sais pas, doit faire 40 mètres de long avec des pièces de centimes qui sont collées au sol. D'ailleurs, il y a un papier où il y a marqué veuillez ne pas enlever les pièces au sol. J'ai envie de dire, mais ouais, on va les enlever, ça va être. Ah, ça y est.
C'est assez rare quand on va au musée de mettre l'œuvre dans sa poche.
Ah bon ?
Oui.
Vous ne l'avez jamais fait ?
Bah non.
C'est dommage.
Oui.
Ah bah oui, moi, il m'est arrivé de
vous
voler des choses.
Vous avez ramassé des pièces ?
Bien sûr. Non, les pièces, non, j'en ai plein les poches.
Non, parce qu'en fait, les pièces, c'est l'œuvre au sens où ce sont des pièces qui sont dessinées par Camille Henrot. C'est pas des centimes, c'est pas des pièces de centimes. Enfin, il y en a en fait, mais ce sont des pièces qui ont été dessinées par Camille Henrot dans le cadre d'un accord avec la Monnaie de Paris, je crois, avec le motif de la pivoleuse.
La pivoleuse. Ben oui, mais je veux dire, à partir du moment où vous, d'ailleurs, les gens évitaient ces certains ne voulaient pas
ce chemin de pièces.
Voilà. Et qui nous conduisent quand même à la question économique, qui est aussi cette grande tablée sur des quairons où vous avez un aggloméré, et puis vous avez des pages de Christie's de vente aux enchères avec son herbier. Et donc là, ce rapport, si vous voulez, vous n'arrivez pas à déterminer quel est. Est-ce que c'est encore une citation là, Camille Henrot, l'herbier de Goethe? J'ai envie de dire, quand il a fait son jardin de botanique, Goethe, c'est redevenu un champ de d'ail et de choux. Je me demande ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui pourrait venir repousser là derrière. Moi, quant à son film un peu porno, que bon, il est assez vieux, je crois qu'il est de 2009, bon, 2005. Bon, mais à part peut-être ce film en 3D qui ressemble à du Terrence Malick quand même.
Du Terrence Malick en mieux quand même. Hein.
Comment ?
Du Terrence Malick en mieux.
Oui, moi, j'ai à beaucoup part aimé cette ce pièce dont je me dis qu'il y a quelque chose du montage qui est pas mal.
Grosse fatigue aussi, ça vous plaît pas, Grosse fatigue,
je l'aime pas, je l'avais déjà vu. Et bon, voilà, donc je crois que définitivement, pas forcément, on verra plus tard.
Oui, on verra, la vie est longue. Ouais. Juste avant que vous l'expliquiez à Corinne, ou tentiez d'expliquer plus exactement, où est Camille Henrot, carton jaune donc au Palais de Tokyo, qui ne cite pas sa scénographe, Cécile de Gausse, dans aucun document de communication, alors que je trouve qu'une des réussites de cette exposition, c'est la transformation du lieu, elle est quand même assez spectaculaire. Et Cécile de Gausse, donc, qui a fait ce beau travail au musée Bourdel, est aussi présente là au Palais de Tokyo, comme elle est régulièrement au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui, je crois, ne cite pas non plus ses scénographes. Donc, si les musées, les institutions pouvaient quand même considérer ce métier qui est extrêmement important pour les expositions, ce serait bien. Passons. Moi, c'est vrai que les films de Camille Henrot sont quand même pour moi très au-dessus du reste de sa production. Moi, Grosse Fatigue, je trouve ça vraiment, vraiment fort. Et ce film dans cette... Oui, ça, j'arrive à vous, Annaëlle Pigeat, je peux dire deux mots. Oh là là ! Non mais allez-y, bon allez-y.
Donc, je voulais juste revenir un tout petit peu à ce que vous disiez sur la, enfin, à la suite de la, votre remarque sur la scénographie, ouais. Parce que l'ambition de l'exposition est de jouer vraiment sur le lieu. Mmh. Effectivement, le travail de Cécile de Gosse avec Camille Henrot marche très bien, je trouve, et elle a voulu transformer le lieu en une sorte de palais baroque, dit-elle. Et il y a tout un travail, il y a tout un fil sur le trompe-l'œil qui est tout à fait intéressant dans l'exposition, qui commence avec la pierre du sol qui remonte sur les murs dans l'entrée.
Ça, c'est pas très réussi.
Ah, moi, je trouve ça...
Le faux marbre. Stéphan Goriard, si on pouvait faire
un gif avec votre tête. J'aurais pu commencer par ça.
Non, mais Stéphane.
Non, j'aurais pu commencer par ça, effectivement, parce que c'est absolument atroce. Mais
ça, c'est pas de la scénographie.
C'est très important parce que. Non, c'est pas du tout, c'est l'œuvre.
Ben oui.
C'est l'œuvre. Mais effectivement, le trompe-l'œil, déjà, pour moi, ça commence par là. Dans la première salle, effectivement, l'introduction. Ensuite, les mots, les poèmes du poète américain qui sont dessinés en trompe-l'œil avec un faux papier, un faux scotch. Alors là, je comprends déjà plus du tout où on est, parce que je vois pas, ça me paraît un geste totalement gratuit, condescendant. D'abord, cette exposition est très condescendante, à mon avis. Elle prend les gens vraiment de haut. D'ailleurs, ça commence dès les peintures de l'entrée qui sont accrochées à 2 mètres. Le centre est accroché à 2 mètres, alors que normalement, les normes muséales, c'est quand même plutôt 1 m50, 1 m55. Et je pense que c'est pas du tout un hasard. C'est une exposition qui vous prend de haut dans le sens aussi où elle met en scène. Moi, personnellement, j'ai toujours beaucoup de mal avec les artistes qui mettent en scène le fait qu'ils sont des chercheurs. Je pense que tous les artistes sont des chercheurs, mais ils sont pas obligés d'en faire un motif, voire le motif exclusif de leur travail, comme c'est le cas ici. Et du scotch, effectivement, elle en a besoin. D'ailleurs, il y a du scotch partout dans l'exposition, hein, soit sous forme de bouts de scotch réels, soit dessinés, soit des rouleaux de scotch. Donc, on a bien compris qu'elle essayait de faire tenir des choses ensemble. Alors, ce qui vous plaît peut-être dans les vidéos, effectivement, c'est que le montage semble faire tenir les choses ensemble. Moi, ce qui me dérange, au contraire...
C'est un peu plus compliqué que ça.
Non, ce qui me dérange, c'est que quand on prend les armes de l'ennemi, il faut quand même savoir ce qu'on en fait, et éventuellement les retourner contre son ennemi. Or, pour moi, toute l'esthétique de l'exposition, et c'est vrai pour les films, mais c'est vrai aussi pour tout le reste, c'est celle du dashboard. C'est celle du cahier de tendance de la mode. C'est celle des écrans de chaînes d'infos, avec d'ailleurs quel
bandeau, etc.
Pour en faire quoi pour moi, c'est par exemple ce qui pourrait être une inspiration, et je pense que je renvoie les auditeurs plutôt vers ça. C'est la magnifique série de Raymond Hinze de Macintoshage, qui sont justement des superpositions, qui sont la même esthétique du dashboard, mais derrière il y a Raymond Hinze. Derrière il y a Raymond Hinze, il y a toute la pensée d'avance, et il vous assomme pas avec ses fiches, il vous donne juste les écrans.
Parce que je finis ma phrase quand même sur le palais baroque.
Mais ça peut prendre du temps parfois de finir une phrase, vous savez.
Je crois qu'elle nous renvoie à travers toute cette réflexion. Vous avez oublié, Stéphane, aussi je ne le relance pas, mais si, je continue mon fil de trompe-l'œil dans l'exposition. Il y a les pièces et il y a aussi à un moment au pied d'une sculpture une sorte de trou dans la banquise comme ça qui, moi, m'a fait rire. Je trouve qu'en fait, moi, il y a dans toute cette exposition à la fois une succession d'émotions. On rit, on pleure, on réfléchit, il y a beaucoup d'humour aussi dans l'exposition. Elle a beaucoup d'humour, Camille Henrot. Et elle, à travers tout ce fil comme ça du trompe-l'œil, elle nous renvoie à un monde d'illusions. Et dans ses films, c'est ça aussi qu'elle montre. Je trouve que l'exposition, enfin le cheminement du parcours entre les deux films, Saturday d'une part et Grosse Fatigue qu'on revoit là, mais qui est très intéressant à l'autre bout du parcours par rapport à Saturday, crée comme ça une tension. Donc pour revenir à ce film Saturday, qui est donc sa grande nouvelle œuvre, c'est un film qui prend pour sujet la communauté des adventistes du septième jour, qui est une communauté religieuse en Papouasie, et il y a un siège aussi aux États-Unis, et on voit qu'il y a pour volonté comme ça de faire disparaître d'une certaine manière, enfin qui crée une réflexion sur les croyances et sur la présence des croyances dans la société, avec un certain nombre d'idées sur la vie saine et sur une sorte de bonne vie, comme ça, qui se mélange avec des images de baptême, des images... Et alors, on a l'impression, en effet, Stéphane, que toutes ces images n'ont rien à voir les unes avec les autres, sauf qu'il y a une sorte de modèle comme ça, de modèle du monde qui se dessine, et qui montre un regard, qui est souligné d'une manière, qui moi m'a fait vraiment beaucoup rire, qui est une sorte de forme ronde qu'on voit réapparaître comme ça à plusieurs reprises dans le film, qui est en fait le dessous d'une table en verre sur laquelle se succèdent toutes sortes d'animaux, il y a même un bébé humain, et qui est comme ça une sorte de vue du monde à l'envers. Voilà. Et pour moi, cette exposition, c'est une proposition comme ça qui permet de regarder le monde par en dessous.
Corinne Rondeau, très rapidement.
Oui, bon, c'est quelque chose qui est lié à un système encyclopédique. La pensée d'un rond, pour moi, ce n'est que ça. Le problème, c'est qu'elle n'en fait rien. Enfin, moi, j'ai du mal, vraiment. Et grosse fatigue, pour moi, c'était, je me rappelle, j'étais vraiment abasourdie. Là, le Saturday, il a juste quelque chose d'un peu plus narratif. Et cette chose narrative, elle est le symptôme absolu de cette exposition, qui est une manière de vouloir penser à la catastrophe et en même temps, il y a la Renaissance, puisque le baptême, c'est jouer, pas vieillir, chirurgie esthétique, le Botox, machin, et donc le baptême, c'est la Renaissance. Et en fait, c'est un film sur l'impuissance. Et l'exposition est une exposition sur l'impuissance. Le seul problème, c'est que je ne sais pas si elle l'assume ou pas. En tout cas, pour le spectateur, c'est pas défini. Cette indétermination est extrêmement pénible et qui, justement, renforce ce mot de condescendance dont parlait tout à l'heure Stéphane.
Moi, je vais faire une analogie qui va pas vous plaire. J'ai eu l'impression pendant toute ma visite, et je suis resté aussi assez longtemps, comme Corinne, d'être dans le film The Square. C'est-à-dire dans une espèce de parodie d'art
pourquoi
contemporain.
Pourquoi ça me plairait pas?
Parce que je vous ai pas aimé beaucoup le film.
Ah oui, mais votre analogie, elle me déplaît pas.
Très bien. Et ça m'a rappelé aussi le défilé Chanel de 2013, où Karl Lagerfeld et ses équipes avaient fait des parodies d'art contemporain dans le Grand Palais.
C'est-à-dire vous êtes invité, mais pas nous, forcément. On a fait autre chose, Stéphane, vous parlez de choses.
C'est-à-dire qu'effectivement, comme le dit Corinne Rondeau, il y a une espèce d'échantillonnage de style. On ne sait pas si les citations sont volontaires ou involontaires. Elles sont certainement volontaires dans le cas de Bob Morris, par exemple. Parfois, on pense à Miro, à Ekili, à Tatiana Trouvé, à Séchasse. Mais finalement, c'est toute une esthétique, parce qu'on ne l'a quand même pas dit, mais c'est une dégoulinade de bronze avec des patines atroces, des marbres, etc. En fait, moi, c'est ce que j'appelle Pietra Santa style, c'est-à-dire cette petite cité, la Wabi de Botero, d'ailleurs, sur la côte ligurienne, où les artisans, justement, qui font les sculptures de Camille en haut, déploie cette esthétique.
Rapidement, Annaëlle.
Saturday.
Concision.
Il y a de la 3D dedans. L'usage qu'elle fait de la 3D est tout à fait intéressant. Parce qu'elle elle fait des rehauts comme un peintre, en fait, de quelques morceaux d'image de la 3D. C'est pas l'usage habituel que l'on fait de la 3D. Et elle fait un travail là sur l'image qui renvoie à ses premiers films, en fait, et à son intérêt pour le cinéma expérimental du début que l'on voit dans Deep Inside, des années 70, et à un travail sur les formes que moi je trouve formidable.
Bon, ce sera pareil concilié, Stéphane Correa.
Je m'en voudrais de ne pas dire, par ailleurs, que les peintures, dont on n'a pas parlé, sont des plagiats purs et simples des calligraphies d'humeur de Jean-Michel Sanogement des années 70, auxquelles je renvoie nos auditeurs.
Bon, allez voir par vous-même, c'est ce qu'il y a de mieux, cette carte blanche à Camille Henrot, Days and Dog jusqu'au 7 janvier au Palais de Tokyo, j'ai pas pu en placer beaucoup, j'aime beaucoup les films. Bon, j'y reviendrai ailleurs, un autre jour, sous notre antenne, allez savoir.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques nous amène à la galerie Kamel Menour, qui représente par ailleurs Camille Henrot en France. On va y découvrir un ancien lion d'or de la Biennale de Venise, il y a 31 ans, 86, Daniel Buren. Le titre de l'exposition Daniel Buren dans la galerie Kamel Menour, Pyramidal au relief, travaux in situ et situés 2017, un titre qui ressemble aux titres habituels des expositions de l'artiste qui a défini il y a bien longtemps un langage plastique en même temps que le lexique qui le définit. Mais ce n'est pas tout, parce que dans la boîte noire, la black box, comme on dit dans le monde de l'art contemporain, qui est au fond de la galerie, on peut s'installer. Il vaut mieux confortablement pour voir un film qui dure. Alors, selon les sources, c'est 6h30, 7h, 7h30. Bon, assez longtemps donc. Et le film est intitulé À contre-temps, à perte de vue, dans lequel l'artiste revient sur une grande partie de ses travaux du 1960 à aujourd'hui en les commentant. Il y a aussi des images d'archives. On voit un Daniel Buren à peu près à tous les âges, répondant à certaines questions. Moi, je dois dire que au-delà des œuvres présentées dont on va parler quand même, c'est le film projeté qui m'a donné envie d'inscrire cette exposition au sommaire de la dispute. Mais vous parlez de ce que vous voulez, Stéphane Coréard, dans le temps qui nous est imparti.
Alors, je ne connaissais pas Daniel Buren. Enfin, non, c'est pas tout à fait vrai.
Ça commence bien.
Disons qu'il y a deux manières d'aller voir une exposition de Daniel Buren en 2017. C'est-à-dire, ouais. Soit effectivement, on a déjà vu le film, qui a duré 50 ans et non pas 6h30 ou 7h, soit on n'a pas vu le film. Alors, si je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a pas vu le film, ce qui est le cas quand même de certains, qui ont pu échapper... à Daniel Buren ces 50 dernières années, je rentre dans la galerie et je vois des structures triangulaires, des prismes, ils les appellent, qui sont posés au mur en quinconce, de manière géométrique, qui forment le dessin d'une pointe de pyramide inversée, enfin la pointe vers le bas en tout cas. Dans la première salle, c'est uniquement noir, blanc et miroir. Dans la deuxième salle, c'est coloré. Et moi, je pense immédiatement, parce que j'ai raté le film Buren, mais j'ai pas raté le film Parents Sotsas, je me dis, tiens, c'est des étagères, Memphis. Mais c'est bizarre, parce que les plans sont inclinés, on peut rien poser dessus. C'est comme du Einstein Back qu'on aurait fait tourner de 45 degrés. Maintenant, je me mets dans la peau de quelqu'un qui connaît déjà le travail de Daniel Buren et qui se demande ce que cette exposition apporte à la gloire de Daniel Buren, la réponse va être un petit peu différente. D'abord, l'exposition s'appelle effectivement Pyramidal au relief, travaux in situ et situés. Dans le vocabulaire de Daniel Buren, on sait que les travaux in situ, c'est ceux qui sont réalisés par définition en fonction d'un lieu et qui en général sont démontés et n'existent plus qu'à travers les traces que l'artiste lui-même en fait ou autorise et qui s'appellent les photos souvenirs. Et puis les travaux situés, au contraire, ce sont des travaux qui sont adaptables à toute architecture. Là, j'ai essayé de lire, il n'y a pas de catalogue, donc j'ai lu le communiqué de presse qui est donné à tous les gens qui rentrent dans la galerie, pas uniquement aux journalistes que nous sommes. Et là, c'est une psychanalyste et critique, Annabelle Gugnon, qui l'a rédigé et qui nous éclaire, parce qu'elle dit chaque pyramide est à la fois in situ et située. Mmh. Donc on peut être à la fois in situ et située, déjà, ça se complique. Bon, ces travaux, c'est pas la première fois qu'ils sont montrés, hein, il y a des travaux comparables qui ont été montrés toute l'année, puisque c'est la 12e exposition personnelle de Daniel Buren, qui a bientôt 80 ans, donc quand même une activité aux quatre coins de la planète. Ça a déjà été montré en avril à San Paolo, en mai à Düsseldorf et en septembre à Londres. Mais ce qui m'a surtout frappé, peut-être parce que je sortais du palais de Tokyo, et que donc c'est pour ça que j'étais lavé en fait par le baptême des adventistes, c'est pour ça que j'ai cru que je ne connaissais pas Daniel Buren, mais finalement je le connaissais. Ce qui m'a frappé, c'est que là on est aussi dans l'ordre de la croyance, c'est-à-dire que finalement l'outil visuel de Daniel Buren, c'est un dogme aujourd'hui auquel on croit ou on ne croit pas.
Vous ne croyez pas, j'ai l'impression, Stéphane Coréa, je sais pas pourquoi. Moi qui ne crois pas en grand chose.
C'est-à-dire que c'est en fait surtout j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est ce dogme, cet outil visuel revient surtout à dire oh, regardez-moi, je suis là, c'est moi, etc. Et ça, on pourra en reparler après. Mais je voudrais quand même revenir juste sur le communiqué de presse qui m'a éclairé sur ce côté sectaire, peut-être, des admirateurs de Daniel Buren, puisqu'il y a quand même des phrases assez surprenantes. Par exemple, elle dit qu'il a réinventé le centre Pompidou. Elle dit aussi dans le communiqué de presse que l'absence de l'œuvre signale sa présence, ce qui me paraît très fort. Et elle conclut cette phrase qui m'a laissé totalement l'œuvre de Daniel Buren participe à la redéfinition du monde. Donc là, je crois qu'on est vraiment dans la secte.
Oui, on peut être de la secte, mais pas adhérer à ce type de propos. Mais réinventer le centre Pompidou, oui, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est de l'espace qui n'a fait...
Un demi-étage.
Ben, oui, mais Pompidou, cet étage-là... Enfin non, il y avait le parking aussi, vous oubliez. si, Corinne Rondeau, lieu de rire.
Le parking, bien sûr. Alors, vous ne le connaissiez pas, et moi je me suis dit, ça fait quand même un paquet d'années qu'il expose. Quel âge a-t-il ? Et alors, bon, moi je ne suis pas restée trop longtemps dans la salle, parce que je me suis dit quand même, 7h30, j'ai pas le temps. C'est effectivement retrouver du Buren, mais sans avoir de très grande excitation, je pense. Parce que c'est vrai que ça recherche, si vous voulez, ne me permet plus d'inventer rien, c'est-à-dire de ne plus rien voir, sauf, effectivement, je suis d'accord que le musée qui n'existait pas à Pompidou était une réussite incontestable et qui avait complètement désorienté le spectateur. Moi, j'avais beaucoup apprécié ce dispositif. Mais là, en l'occurrence, j'ai eu la sensation que ce n'était qu'en fait un jeu de construction lié à la perspective. Donc, en fait, j'étais au point, puisque c'est une pyramide qui l'inverse, et en fonction du lieu où je me trouve, en fait, je suis dans une perspective inversée. Donc, c'est une manière de rechercher encore une fois, c'est le spectateur qui va justement jouer dans le lieu, puisque ses œuvres sont faites pour donner une autre dimension du lieu. Alors, selon comment vous vous tenez, vous allez voir les lignes, les outils optiques, justement, qui vont se refléter, puisque on est dans des miroirs tout le temps. Il y a des miroirs tout le temps. Alors, noir, miroir blanc, noir, blanc, blanc, miroir. Donc, au bout d'un moment, je ne savais plus. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait des effets sur une porte, avec derrière, il y avait une porte. Donc, il a mis une zone miroir noir rouge en rectangle qui faisait un double comme ça, un écho. Mais je crois que peut-être ça peut. J'ai pas eu de choc, j'ai pas eu d'intérêt. Bon, ce V qui apparaît dans la salle comme ça joue effectivement sur des binarités lumière, ombre, enfin noir, blanc. Les plans, selon l'inclinaison de la lumière, ça descend, donc vous avez une pente, ou alors il y a une élévation. On a l'impression qu'on est en train de tourner de la lumière sur des formes de maquettes, on va dire, architecturales. Donc voilà, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment fait pour j'ai pas l'impression que ce soit fait vraiment pour la galerie. J'ai l'impression que ça peut être à peu près partout. Donc, c'est du Buren, quoi. Voilà, j'ai une manière de trouver encore une possibilité de renouveler sans cesse son outil visuel. Mais on se dit, voilà, qu'est-ce qui pourra encore me faire voir? Et là, je suis pas convaincue qu'il puisse me faire voir encore quelque chose. Bon, peut-être, mais dans ce film.
Moi, j'ai vu, mais c'est parce que je suis croyant et sectaire, selon Stéphane Correa. Mais vous qui êtes obsessionnel, ça m'étonne que vous soyez pas sensible à la dimension obsessionnelle du travail de Daniel Buren. Moi, c'est une chose qui me fascine.
Alors,
assez.
Moi, mais... je suis obsessionnel et hystérique.
Oui, donc oui.
Donc il y a des
donc,
trucs.
Il faut que je travaille cette autre facette. Mais je dois dire, et je le répète, et Annaël Pigeat, peut-être on pourrait parler de ça dans le très peu de temps qui reste. Moi, le film, il se trouve que j'avais un peu de temps. Je suis resté pas assez longtemps à mon goût parce que moi, ça m'a quand même fasciné. Alors, évidemment, quand on est Stéphane Correa, on dit on n'a pas pu échapper à Daniel Buren. Moi, j'ai été stupéfait, mais il y a tellement de choses de Buren que je ne connaissais pas parce que c'est de par le monde, de fait, et qu'il y a un tas de documents, quel que soit le moment où on peut passer une demi-heure ou plus dans la galerie Kamel Menour, on verra des choses quand même très étonnantes, Annaël Pigeat.
Oui, c'est vrai que autant Pyramidal m'a vraiment assez peu intéressée, parce que pour une raison simple, c'est qu'en fait, cette œuvre n'affecte pas le lieu.
Moi, ça m'affecte. Mais bon, ouais, allez, bon, enfin, le film.
Mais en tout cas, le film, en revanche, est un petit système qui m'a beaucoup à la fois amusée et intéressée, parce qu'il est très obsessionnel. Daniel Buren construit une sorte de grammaire, comme ça, rétrospective sur son œuvre. Et c'est un peu l'exposition qui n'existait pas aussi. C'est l'exposition rétrospective impossible de son travail. Et il y a une sorte de perversité ironique dans la chose, qui est une sorte de mise en abîme de l'impossibilité de voir, par le fait même que cette chose dure 7h30 ou on ne sait pas combien de temps exactement. Et que... Alors, je crois qu'il y a une nuit bientôt de projection à la galerie, mais hormis ce jour-là, c'est un peu compliqué de rester 7 heures. Enfin, en tout cas, je ne suis pas restée 7 heures non plus pour voir la chose. Et qu'elle a quelque chose d'invisible. Ce film a quelque chose d'invisible. Il a aussi... Alors, je cherchais d'autres exemples comme ça d'expériences de ce genre par des artistes. Et je pensais à une chose faite par Olafur Eliasson sur son site internet qui s'appelle Your Uncertain Archive, donc votre archive incertaine.
Très belle traduction.
Je sais pas,
magnifique.
Pardon.
J'aurais pas fait mieux, je pense.
Ok, j'aurais pu faire mieux peut-être. Mais bon, en tout cas... Eliasson met en perspective tout son travail par une sorte de site interactif, par un site interactif. On clique sur une œuvre et on en a les détails. Et en fait, c'est le visiteur qui fait son chemin dans l'œuvre. Là, Daniel Buren fait à peu près l'inverse.
Bon.
Et avec beaucoup d'autorité, agit sur le spectateur, le fait asseoir dans cette pièce et lui demande de rester assis sans bouger et de regarder la succession de
qui peut être monotone,
qui montre en même temps la diversité assez extraordinaire de son travail, qu'on découvre des choses.
J'aurais bien aimé à la Villette dans les années 70.
Absolument. Qu'on le voit dessiner, parce qu'il y a des archives, parce qu'il y a des interviews de lui, de ses camarades, de Pierre Huyghe, de tout un tas d'autres gens.
C'est parce que ça n'est plus que ça nous intéresse.
Il y a des choses, mais ce qui
m'intrigue, c'est pourquoi le récupérer. C'est ça qui m'intrigue.
Ça veut dire récupérer, archiver.
Faire que ça reste alors que ça n'est pas fait pour rester.
C'est ça qui est intéressant.
Mais ça ne reste pas en même temps. Ça m'intéresse, vous savez, Annaëlle.
Ça joue sur la frustration aussi.
Ouf.
Stéphane, 5 secondes.
J'ai regardé le film aussi assez longtemps, je trouve plutôt cruel, parce qu'en fait on voit qu'au départ les matériaux sont pauvres, c'est parfois subtil, très léger, etc. Et quand même, la pente du travail, c'est d'être plus monumental, plus criard dans les couleurs,
vous pouvez pas
plus chic,
d'avoir plus de moyens,
plus pérenne. Et globalement, aujourd'hui, c'est quand même surtout des pièges à selfie. 90% de ses œuvres, c'est miroir ou transparence colorée.
C'est peut-être pas de sa faute, le selfie. Hein.
Oui. Bon,
ce sera le point d'interrogation final. Alors.
Point de suspension, on est vraiment au bout de cette émission. Eh oui, Anaël Pigeard, il ne fallait pas parler de la tour Eliasson. Daniel Buren, Pyramidal, au relief Trabou in situ, est situé, parce que c'est possible. Et aussi ce film à découvrir jusqu'au 25 novembre à la galerie Kamel Menour. On conclut avec le jeu de la dispute. D'abord, un rappel de la question d'hier soir par Grégoire Difiore et qui va même nous donner la réponse aussi.
Quel célèbre dramaturge a réalisé le film Molière ?
La réponse ?
Ariane Mnouchkine.
On fait gagner ce soir des places de cinéma pour le film We Blew It, Jean-Baptiste Torré, qui est sorti aujourd'hui dans les salles, Grégoire.
Pour quelle raison les Hells Angels ont marqué le festival d'Altamonte en 1969 ?
La réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain. Demain, 19h, dispute consacrée à la littérature, en compagnie de Raphaël Léris, Grégoire Leménager et Laurent Nunez. À notre programme, une émission spéciale qui reviendra sur une partie de l'avalanche de prix littéraires de ces derniers jours.